Nous lisons dans l'évangile de Jean. Jean au chapitre 6. Il est écrit ceci. À partir du verset 22. Le lendemain, la foule qui était restée de l'autre côté de la mer vit qu'il ne s'était trouvé là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais que les disciples étaient partis seuls. Mais d'autres barques arrivèrent de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand les gens de la foule virent que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, ils montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent de l'autre côté de la mer et lui dirent, « Maître, quand es-tu venu ici ?» Jésus répondit, « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » En effet, Jésus avait multiplié les pains et ils avaient mangé. « Travaillez, non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau. » Ils lui dirent, « Que ferons-nous afin de travailler pour les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « Ce qui est l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous te croyions ? Quelle œuvre fais-tu ? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna à manger le pain venu du ciel. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » Jésus leur dit, « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. » Je recommence le verset 35. « Moi, je suis le pain de vie, dit Jésus. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. » Dans la vie chrétienne, nous pensons que le problème le plus important, c'est le problème de paraître ou de vivre correctement selon les lois du Seigneur, les commandements de Dieu. Nous sommes souvent embêtés par cette affaire-là. Est-ce que j'ai été à la hauteur? Est-ce que je n'ai pas péché? Est-ce que ceci, cela? Et souvent, on s'épuise. On s'épuise parce que nous replongeons dans la loi, alors que Jésus nous a affranchis de la loi. Ça ne veut pas dire qu'il nous autorise à commettre les péchés. Loin de là. Ça veut dire tout simplement, la loi n'est plus un danger pour nous, mais une force pour nous. Avant, la loi pouvait paraître comme un danger pour les gens, parce que c'est par la loi que les gens avaient connaissance du péché, et c'est ainsi qu'ils se sentaient condamnés. Aujourd'hui, puisque Christ a pris nos péchés à la croix, nous ne sommes plus condamnés, et la loi n'est plus un danger pour nous. Au contraire, elle est une bonne chose qui nous rappelle la nature de notre Dieu et qui nous rappelle que nous devons nous repentir au cas où nous avons péché. Le plus important, bien-aimé, c'est être rassasié. Jésus dit une phrase très importante. « Je suis le pain de vie. » Verset 35. « Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Quand quelqu'un est rassasié, on peut lui présenter toutes sortes de mets, toutes sortes de plats, quel que soit le raffinement du plat, s'il est vraiment rassasié, il n'a plus envie de manger. Il s'arrête. Et les personnes qui montrent bien cela, c'est les bébés. Un bébé, dès qu'il est rassasié, il ne rajoute plus. Alors que les adultes peuvent rajouter et tomber dans les excès de table et avoir mal au ventre, ainsi de suite. Mais les enfants, quand ils ont suffisamment mangé, ils s'arrêtent. Et d'autres adultes sont pareils. Donc quand on est rassasié, on n'a plus envie de continuer de manger. Peu importe le plat qu'on te présente. Jésus nous donne une clé de la puissance. Une clé plutôt de la force qu'on peut retirer de lui dans la vie chrétienne. Il dit qu'il faut être rassasié en le mangeant lui, en s'approchant de lui, en croyant en lui, on est rassasié. Récemment, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, mais puisque la personne était partie faire un tour ailleurs dans des églises, on a essayé un peu de la flatter, de l'amener à travailler avec eux, tout ça. Et puis, il m'a posé la question, mais je ne comprends pas pourtant. Toi, tu ne te comportes pas comme ça en tant que pasteur, tu ne cherches pas à accrocher les gens. Qu'est-ce qui fait que toi, tu ne te comportes pas comme ça? Je n'avais pas bien répondu quand je lui ai répondu la première fois. Mais quand je suis rentré chez moi, j'ai dit, mais qu'est-ce qui fait que justement, je ne flatte pas et je ne cherche pas le nombre à remplir la salle? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait cela? J'ai reçu la réponse, bien-aimé, quand tu es rassasié, tu n'as envie d'une seule chose seulement, Jésus. Je me suis souvenu que l'impression que j'avais eue quand je m'étais converti, c'est qu'il ne me faut que Jésus. Du moment que j'ai Jésus, je peux être porteur de briques, docker au port, porter les sacs, professeur, je ne sais quoi, sentinelle. Mais j'ai eu la sensation d'une plénitude. Jésus me suffisait. Et je crois qu'aujourd'hui, beaucoup sont dans le péché parce qu'ils ne sont pas rassasiés. Beaucoup sont dans l'inquiétude ou dans la perturbation, dans la flatterie parce qu'ils ne sont pas rassasiés. Jésus ne leur suffit pas. Il leur faut des dons spirituels. Il leur faut des miracles. Il leur faut de l'argent. Il leur faut remplir des salles. Bien aimé, je ne dis pas que il ne nous faut pas, des dons spirituels ni des miracles. Je dis tout simplement, pour ces gens-là, il leur faut ces choses pour qu'ils se sentent bien. Ils ont besoin de ces choses-là. Ils ont besoin de remplir des salles. Ils ont besoin d'avoir de l'argent. Ils ont besoin de beaucoup de choses pour se sentir bien. Ce n'est pas normal. Un enfant de Dieu qui est rassasié reste un humain. Il va continuer à avoir besoin de manger. Il va continuer à avoir besoin de se marier. Il va continuer à avoir besoin peut-être de courir. Mais ce sont des choses dont il peut se passer parce qu'il est déjà rassasié. Un enfant de Dieu, il est rassasié et il demande des choses pour un avenir encore meilleur. Mais ce n'est pas que il le demande parce qu'il se sent en manque. Il se sent perdu ou bien manquer des choses. Non, il est rassasié, mais c'est comme quelqu'un qui a une belle voiture, mais il veut encore celle qui est sortie. Donc ce n'est pas qu'il ait une mauvaise voiture, il a une très belle voiture, il en est content, mais sauf qu'il veut encore autre chose. Ce n'est pas un manque, ce n'est pas une difficulté. Or, beaucoup sont dans le péché ou sont dans la jalousie, dans les guerres inutiles, dans les comparaisons. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas rassasiés. Ils ont besoin d'être complimentés pour se sentir bien. Ils ont besoin d'être félicités. Ils ont besoin de prêcher. Il y en a qui ont besoin d'être devant les gens et parler. C'est ce qui leur plaît. Ça les dérange de parler devant une seule personne, dans une cuisine, ou bien à l'école. Ils veulent être devant un public et prêcher. Et quand ils n'ont pas ça, ils ne se sentent pas bien. Il y en a qui veulent prêcher à la télé. C'est comme un manque. Parce qu'ils ne sont pas rassasiés. Quand quelqu'un est rassasié, il est bien. Jésus a dit, celui qui vient à moi n'aura plus faim. C'est-à-dire que je lui suffirai. Je vais remplir. Ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas de besoins humains. Il aura des besoins humains. Mais ce dont l'homme a besoin le plus que tout, c'est de la vie éternelle. Quand l'homme a trouvé la vie éternelle en Jésus, il est rempli. Il est comme rassasié et le reste n'est que secondaire. C'est ça la réalité. Être rassasié en Jésus-Christ. Est-ce que tu es rassasié? Quand on est rassasié, on n'a plus envie de pouvoir. On n'a plus envie d'être le premier. Puisqu'on est déjà le premier. Lorsqu'on a déjà vu quelqu'un qui est premier, cherche encore à être le premier. Il est le premier déjà. Quand on est rassasié, c'est fini. On est arrivé au terminus. Est-ce que quelqu'un qui arrive au terminus de sa ligne, de métro ou de bus, peut-il vouloir continuer à rouler encore? Ben non, il est arrivé au terminus. Il descend. C'est tout. Celui qui s'approche du Seigneur va être rassasié. C'est la grande question. Sommes-nous rassasiés? Où il nous faut être complimenté physiquement pour se sentir bien. Il nous faut être apprécié par le pasteur pour se sentir bien. Non, bien-aimé. Nous, on a vécu des situations, des injustices dans les églises. Tu avais une responsabilité, mais parce que tu n'as pas voulu faire des compromis par rapport à la vérité, on te retire la responsabilité. Ou bien par jalousie, on te retire la responsabilité. On te retire la prédication. Et les gens s'attendent à te voir triste le dimanche qui va suivre. Mais le dimanche qui suit, on te voit encore danser. Alors les gens quand même, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que Jésus suffit à cet homme-là. Du moment qu'il a Jésus, lui il est content. Prenez tout sauf Jésus-Christ. On a retiré tout à Job. Il est écrit, il a dit, c'est Dieu qui a donné. Il a repris, que son nom soit béni. Du moment que j'ai Dieu, cela me suffit. Bien-aimé, pourquoi on sait que Jésus est venu pour être un exemple pour nous, ainsi de suite? Mais bien-aimé, il n'y a pas que cette raison qui explique la venue en simplicité de Jésus. Pourquoi aller naître dans une étable? D'accord, pour montrer que Dieu s'est humilié lui-même. Mais bien-aimé, c'est aussi pour qu'on ne voit que lui, c'est tout. Donc quand les gens entrent dans l'étable, il y a des bœufs, il y a tout ça, des trucs insignifiants pour l'humain. Il y a l'odeur, mais on pouvait voir la lumière du monde. Pour qu'on ne voit que lui, parce qu'il ne veut pas que les gens soient distraits par autre chose que par lui. Il est le centre de tout. Pourquoi Jésus était, on dit de Jésus qu'il n'avait pas de regard pour attirer. Donc physiquement, il n'était pas attirant. Pour que les gens ne soient pas distraits, ni par le vêtement, ni par la beauté physique, mais par qui est cet homme-là, qui est cette personne. Que les gens se concentrent que sur ça, parce que c'est ça qui donne la vie. Savoir qui est Jésus, c'est ça qui donne la vie. C'est écrit dans Jean 20. Il est écrit, Jésus a fait beaucoup de miracles et ces miracles peuvent remplir tous les livres, des livres qu'on peut écrire dans le monde entier. Et il est écrit que tout ce qui est écrit, c'est écrit afin que nous croyions que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en croyant, nous ayons la vie. Donc la vie vient du fait qu'on croit que Jésus est le Fils de Dieu. La solution de Dieu, le centre de tout. Et quand tu as reçu ça, bien-aimé, tu as atteint l'objectif d'une vie. Le jour où tu as rencontré Jésus, tu as atteint l'objectif de ta vie sur terre. Et donc tu es satisfait, tu es rassasié. Et donc tout le reste va devenir secondaire. C'est pourquoi une telle personne comme je l'ai dit au départ, ne va vraiment pas se battre par rapport à la jalousie. C'est un humain, il peut être tenté par la jalousie, mais ça va passer. Parce que lui, il a Jésus et ça lui suffit. Il a Jésus et il a tout. Paul dit, nous n'avons rien du tout, mais nous avons en même temps tout. Pourquoi nous avons tout? Parce que celui que nous avons possède tout. Mais nous, concrètement, nous n'avons pas tout. Mais celui que nous avons dans notre cœur, il possède tout. Et nous ressentons cette possession-là. Vous savez, bien aimé, Paul ne parle pas comme un rêveur. Nous n'avons rien, mais nous possédons toutes choses. Non, ce n'est pas comme un rêveur. C'est une vraie réalité qu'il sentait en lui d'être le possesseur de tout. C'est une vraie réalité. Ce qui fait que quand ils se sont retrouvés dans le bateau, et le bateau passait par la tempête, il y avait des tempêtes, l'ange du Seigneur a dit à Paul, ne t'en fais pas, je vais te protéger toi et les gens qui sont avec toi. Paul, qui n'était que prisonnier, simple passager et prisonnier en même temps, il se dirige vers le capitaine. Il dit au capitaine, suivez mes instructions. Le Dieu que je sers m'a dit que rien ne va nous arriver. À partir de maintenant, suivez mes instructions. Bien-aimé, quel courage, quelle assurance. N'est-ce pas quand il dit qu'il possédait tout, il avait raison? Il dit, le Dieu que je sers m'a dit que personne ne mourra. Suivez maintenant mes instructions. À un moment, les prisonniers ont voulu fuir parce que c'était un bateau qui amenait plusieurs autres prisonniers. Paul a prévenu tout le monde que personne ne quitte le bateau. Celui qui quitte le bateau peut mourir. Vous restez tous là. Bien-aimé. Il a dit au capitaine, ne t'inquiète pas. Le Dieu que je sers m'a dit qu'il n'y aura pas de problème. Jusqu'à la fin, le naufrage a été fort. Le bateau s'est cassé. Pas une seule personne n'est morte. Et arrivé au rivage, Paul était en train de rassembler des branchages pour allumer le feu et se réchauffer. Il y avait un serpent sur une branche qui a mordu Paul. Les gens ont dit, ah voilà, il va mourir. Il a échappé au naufrage pour mourir ensuite. Bien-aimés, ils ont attendu, Paul n'est pas mort. Parce que Paul possédait tout. Parce que celui qui était en Paul était le chef de tout. Pourquoi Paul était comme un fou du Seigneur? Parce qu'il était rassasié. Il était rassasié. De celui qui vient en moi n'aura jamais faim. Il n'aura plus soif. Parce qu'il a trouvé ce dont l'homme a besoin. Lorsque nous mangeons, nous cherchons à mettre quelque chose dans le ventre pour se sentir fort, pour retrouver en quelque sorte la vie. Parce que sans la nourriture, on est comme mort. Sans la boisson, on est comme mort. Sans l'eau, on est comme mort. Donc quand nous mangeons, nous buvons, c'est pour recevoir la vie. Jésus dit, mais c'est moi le vrai pain, c'est moi la vraie eau. Celui qui m'a mangé, c'est fini. Il a trouvé l'eau qu'il fallait, il a trouvé le pain qu'il fallait. Nous souffrons pour beaucoup parfois lorsque nous exhortons les gens à se donner pour le Seigneur, à venir adorer le Seigneur, à élever le nom du Seigneur, à mettre le Seigneur en priorité. Parfois nous parlons à des gens qui ne sont pas rassasiés et nous perdons parfois notre temps. Je ne sais pas si on doit appeler ça perdre notre temps, mais nous souffrons. En réalité, le vrai problème, c'est que chacun soit rassasié du Seigneur. Si quelqu'un est rassasié, vous n'avez pas besoin de l'agiter pour venir servir le Seigneur. Vous n'avez pas besoin de parler. En lui, il y a une soif du Seigneur Jésus. Il va toujours chercher là où il y a Jésus pour manger, pour boire. Il va toujours chercher parce qu'il a trouvé la nourriture qu'il lui faut. Il l'a trouvée. Il va chercher cette nourriture partout. Dans tout ce qu'il fait, il va chercher à découvrir Jésus-Christ. Parce qu'il a faim de Jésus. Et il est écrit dans le psaume 63 ou dans le psaume 42, surtout le psaume 63, ça c'est David qui parle. Il dit, mon âme a soif, soif du Dieu vivant. Soif de Dieu, comme une terre aride, desséchée. Desséchée, vous imaginez une terre qui est desséchée dans le désert. Comment elle a soif d'eau? Dès que vous mettez l'eau, l'eau disparaît, quoi, tellement la terre absorbe rapidement l'eau. L'eau disparaît, tellement c'est sec, ça remplit, ça va directement dans la terre. Et les fils de Corée font la même prière au psaume 42, avec une nuance. Ils disent, mon âme a soif du Dieu vivant, comme une biche soupire après le courant d'eau. Mon âme a soif du Dieu vivant. Aujourd'hui, bien-aimés, est-ce que les riches sont satisfaits de leur argent? Est-ce que les présidents sont satisfaits? Non. À peine ils sont au poste, à peine ils préparent la réélection. Est-ce qu'ils sont vraiment satisfaits quand ils sont présidents? Non. Ils ont soif de l'être éternellement, mais ils ne peuvent pas l'être éternellement. Mais nous, ce que nous sommes, nous le sommes éternellement. La vie éternelle, c'est maintenant. La vie éternelle, nous l'avons déjà. Et personne ne peut nous retirer ça. Mais être président, aujourd'hui, Kadhafi, il est où? Il est mort. 40 ans de pouvoir. Vous imaginez comment c'est long. C'est un enfant qui naît, qui finit ses études, qui travaille, qui met au monde d'autres enfants. Mais aujourd'hui, il est où? Les choses de la terre sont éphémères. Jésus leur dit, vous me cherchez parce que j'ai multiplié des pains physiques. Mais qu'est-ce que le pain physique peut vous apporter? Vous allez manger aujourd'hui, demain vous aurez encore faim. Mais c'est lui qui m'a trouvé. C'est, ça y est. Comme disent les Marocains, c'est fini, ça y est. Il a trouvé ce qu'il fallait. Il n'a plus besoin d'une autre source. Il sait là où s'abreuver. Et quand nous pensons en plus que Jésus est disponible, bien-aimé, une source disponible, on s'est dit c'est fini, je ne m'embête plus, j'ai trouvé la solution. Peu importe ma position sociale, moi j'ai trouvé le meilleur, la bonne part. Jésus a dit à Marthe, Marthe, tu es en train de t'agiter pour ceci, pour cela. Aller à la cuisine, aller chercher des fleurs, aller faire ceci. Mais la personne qui a trouvé la bonne part, c'est Marie. Marie était au pied de Jésus en train de recevoir sa parole. Elle savait que la vie venait de la parole. La vie ne venait pas des convenances humaines. Ça venait de la parole de Dieu, de Jésus lui-même. Bien-aimé, je nous rappelle, s'il nous plaît, soyons rassasiés du Seigneur. Si on n'est pas rassasiés, alors on a cru d'une manière morale en Dieu. On a cru que Dieu était, il nous a envoyé un code pénal, un code civil, pour essayer de respecter, ne pas faire ceci, ne pas faire cela, pour aller au ciel. Voilà, si on est rassasié, on est bien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de tentation. Ça ne veut pas dire que la chair va devenir forte, la chair va rester faible. Mais la soif du Seigneur Jésus, la faim dans le Seigneur Jésus-Christ, cette faim et cette soif, à chaque fois, te sortira du régime terrien vers le régime céleste qui est puissant, infini, éternel. Tu seras réellement puissant comme c'est écrit dans le psaume 68, verset 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Tu vas expérimenter que tu es puissant réellement, bien-aimé. Parce que tu marches dans la nourriture éternelle. Tu ne marches pas dans la nourriture terrestre seulement. La nourriture terrestre sert au corps. Mais l'homme n'est pas qu'un corps physique. L'homme est âme et esprit. Donc le tout a besoin de la nourriture spirituelle, qui est Jésus lui-même, plus que tout. Et quand tu as trouvé ça, bien-aimé, tu es rassasié. Tout s'arrête. Tu es rassasié. Tu peux continuer toujours à faire des études, mais tu le fais comme une sorte de cerise sur le gâteau. Tu le fais parce que tu es sur la terre, il faut continuer à faire certaines choses. Il faut continuer à manger, il faut continuer à dormir. Mais Jésus-Christ te satisfait. Tu es rempli, bien-aimé. Certains ont traité Paul de toutes sortes de noms. Quand Paul disait, je préfère rester seul. Ah, Paul était misogyne. il n'aimait pas les femmes. Tout. C'est faux, bien-aimé. Il était tellement rassasié qu'il n'avait envie de rien d'autre que de Jésus. C'est tout. Ah, il était misogyne. Non. C'est quelqu'un de rassasié. Comment expliquer, bien-aimé, que Zachée, rien qu'à la vue de Jésus, il décide de tout vendre et de donner aux pauvres? Parce qu'il était rassasié. Il a trouvé ce qu'il cherchait. Il est arrivé au terminus. Pourquoi s'embêter encore avec des choses à chercher l'argent alors que lui, il a déjà celui qui possède tout l'argent du monde? Pourquoi s'embêter? Parce que l'objectif de l'homme, ça peut être une richesse. C'est la richesse, non? Mais à quoi ça sert de prendre la richesse qui finit au lieu de saisir la richesse éternelle? Si vraiment notre... qu'on le veuille ou pas, moi le premier, mon objectif a été toujours une puissance qui ne finit jamais. Enfin, une puissance, mais qui ne s'arrête pas. Qu'est-ce que ça pouvait être? À l'époque où on vivait la galère au Maroc, quand j'étais étudiant, je rêvais de faire, bien aimé, une omelette avec 10 œufs et l'achever moi tout seul. Parce que ce n'était pas facile. Je me dis, ah, le jour où j'aurai l'argent, je vais faire une omelette avec 10 œufs. Mais aujourd'hui, je suis là. Et qu'est-ce que ça me dit, 10 œufs avec une omelette? On te donne même l'omelette, ça n'a même pas de goût. Alors que tu rêvais. C'était mon rêve, une omelette avec 10 œufs. Mais le jour où j'ai eu les moyens, je n'ai pas fait ça. Je pensais encore à autre chose. C'est pour nous dire que les choses de la terre sont vanité. Quand tu n'as pas, tu trembles. Il y a ce jour-là. Mais quand ce jour arrive, tu as encore de chercher autre chose. Des gros raisins, peut-être. C'est ça, bien-aimé. Les choses de la terre sont... ça s'évanouit. Nous tous, nous étions à la recherche de quelque chose, mais qui ne finissent pas. Qui voudrait que les vacances finissent? Personne. Pendant les vacances, on est, ah, dans une semaine, ça va recommencer. On est fatigué, on est en colère. On aimerait des vacances, mais qui ne s'arrête pas? On aimerait tout ce qu'on aime ici sur terre, on en aimerait, mais qui ne s'arrête pas? Nous voyons des femmes de 60 ans vouloir encore des enfants. Donc on veut toujours que ça ne s'arrête pas. Alors Jésus est la richesse qui ne s'arrête pas. Mais cependant, cette richesse est venue dans la simplicité. Et seuls ceux qui ont l'humilité peuvent accepter cette richesse-là. Mais c'est une grande richesse. Il dit, celui qui m'a mangé, c'est fini. Il aura faim que de moi. C'est une réalité, bien-aimée. Comment expliquer que des gens comme Jackie Pullinger, 23 ans, une belle fille anglaise, quittait son Angleterre natale pour aller prêcher à Hong Kong, pas n'importe où à Hong Kong, dans le quartier le plus malfamé de Hong Kong. Comment expliquer ça? C'est qu'il avait faim de Jésus. Il avait faim de Jésus, c'est tout. Oui, elle était rassasiée par Jésus. Il lui fallait voir Jésus. Aujourd'hui, bien-aimés, pourquoi nous n'avons pas beaucoup de missionnaires? Pourquoi on n'a pas beaucoup de gens qui lâchent tout pour suivre le Seigneur? C'est parce que nous sommes dans une culture matérialiste où la réussite implique la possession des choses de la terre. La réussite implique un bon mariage. La réussite implique de beaux enfants qui étudient bien dans de bonnes écoles. La réussite implique tout ça. Ce qui fait que même si les gens sont dans le Seigneur, ils veulent utiliser le Seigneur pour que leur mariage réussisse, pour se marier, pour avoir de bons enfants, pour avoir un garçon plutôt qu'une fille. Pour... chacun veut utiliser le Seigneur pour une réussite terrestre. C'est pourquoi nous avons perdu le rassasiement. Et on voit de moins en moins de missionnaires, des gens qui lâchent tout pour dire, moi je vais servir le Seigneur. Je suis rassasié et je n'ai pas besoin d'autre chose. Voilà. Pourquoi Jésus va permettre la tempête comme ça. Dans Matthieu 8, il y a une tempête. Mais les gens réveillent Jésus. Mais pourquoi tu nous laisses comme ça? C'est fait exprès pour qu'ils s'intéressent à Jésus, qu'ils ne s'intéressent pas à la tempête. Bien-aimé, il est écrit que Dieu est jaloux. Il est jaloux. Il ne peut pas accepter qu'on ait peur de la tempête alors que lui, il est là. Donc, il permet ça pour que tu oublies la tempête et que tu t'intéresses à lui, que tu aies peur, que tu dis, mais oui, mais que tu te souviennes que Dieu est là. Regardez la jalousie de Dieu. Quand on a montré un enfant, ben, avec le nez de naissance, avec le nez plutôt, pourquoi Jésus a dit, tout ça c'est rien? C'est afin que la gloire de Dieu se manifeste dans sa vie. Amen. Ah oui? Jésus a dit, tout ça c'est rien. Avec le nez, d'accord, mais moi je suis plus fort que ça. Mon Père est plus fort que la mort. Lazare, 4 jours. Pourquoi? Pour que nos yeux s'ouvrent sur qui est Jésus. 4 jours. Pour que finalement on s'intéresse à lui. Maintenant, pendant que tout ça nous arrive, au lieu de s'intéresser à la nourriture qui ne finit jamais, on s'intéresse encore à tout ce qui finit. Ah, Lazare est mort, on commence à pleurer. Ah, il y a la tempête, on commence à pleurer. Or, tout ça a pour objectif, voir Dieu, comme Job a dit, avant je t'entendais, maintenant je te vois. Mais comme nous avons oublié le rassasiement, nous cherchons notre solution ailleurs. Comment expliquer que Richard Rembrandt en prison, au lieu d'être content d'être libéré, il a été mécontent d'être libéré. Il a voulu retourner en prison. Parce que c'est en prison qu'il voyait le Seigneur transformer des voleurs, transformer des bandits, manifester son amour, bien-aimé. Arrêtons avec le matérialisme, avec l'égoïsme, avec les soucis personnels. Soyons rassasiés et occupons-nous de l'œuvre de Dieu. Comme mon frère Paul, que j'aime beaucoup. Il a dit, j'ai considéré tout comme perte, Philippiens 3, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus mon Sauveur, pour qui j'ai renoncé à tout. C'est pourquoi je ne regarde pas ce qui est en arrière, je regarde, j'avance, combattant jusqu'à la mort. Paul a compris, Jean a compris. Jean a compris. C'est lui qui dit, Jésus dit à travers la bouche des gens, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans le noir. Il aura la lumière éternelle de la vie. Amen. Mais tout ça se fait avec simplicité et les orgueilleux, ils n'aiment pas ça. Soyons rassasiés, bien-aimés du Seigneur. Réfléchissons à cela. Disons au Seigneur, je prie que tu te révèles à moi. Parce que beaucoup vont me demander, mais comment être rassasié? Il faut prier, Seigneur, révèle-toi à moi. Parce qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il faut prier, Seigneur, révèle-toi à moi. Parce que je n'ai pas la réaction des Zachée dans ma vie. Je n'ai pas la réaction de Paul dans ma vie. Je n'ai pas la réaction de Pierre et de ses amis qui ont tout abandonné pour te suivre. Révèle-toi à moi. Bien-aimé, n'est-ce pas le désir de tout chrétien de vivre la parole? Mais la parole, ce n'est pas seulement les dons spirituels et les miracles. La parole, c'est aussi ne plus avoir faim. Il est écrit, celui qui s'approche de Jésus n'aura plus faim. Si tout le temps tu es tourmenté par les choses de la terre, est-ce qu'il n'y a pas un problème de faim là? Ne devrais-tu pas désirer être rassasié? Ne devrais-tu pas vivre le même état que les apôtres quand on les a envoyés en mission sans argent. Jésus a dit, ne prenez rien, allez comme ça. Je n'ai pas dit que quand nous ici, maintenant on va en mission, on doit aller sans argent. Je dis tout simplement, cet état-là, pourquoi Jésus leur a dit ça? De ne rien prendre, afin de s'intéresser à la vraie source, c'est lui-même Jésus la source. Je parlais à quelqu'un qui me disait, mais oui, mais moi j'aimerais expérimenter les dons spirituels. Moi j'ai dit, mais il n'y a pas de problème. Mais si tu les expérimentes sans être rassasié de Jésus, tu vas te faire piéger un jour par un sataniste qui va manifester des dons gravement, terriblement. Si tu les expérimentes sans avoir faim de Jésus, qu'est-ce que tu vas faire des actes? Qu'est-ce que tu vas faire des dons spirituels? Si tu ne connais même pas Jésus, tu ne t'intéresses pas, tu n'es pas affamé de Jésus. Parce que quand on a soif de Jésus, c'est quoi? On a soif de sa volonté. On saura qu'est-ce qu'il attend de nous. Où veux-tu qu'on soit? Mais quand on n'a pas faim de Jésus, qu'est-ce qui se passe quand on a la puissance de Jésus? On utilise ça pour les besoins de la chair, pour se sentir bon, fort. C'est tout. Mais quand on a faim de Jésus, on utilise sa puissance pour Jésus lui-même. Parce qu'on a faim de lui. On veut plaire à notre Dieu. Et ce qu'il nous donne comme puissance, nous renvoyons à lui encore pour sa gloire. Le roi David a dit, nous te donnons ce que tu nous as donné. Pourquoi nous lui donnons encore? Parce que nous l'aimons. Nous voulons l'honorer. C'est cette fin-là qu'il faut avoir. Quand tu reçois un grand cadeau, une surprise financière, la première réaction doit être qu'est-ce que je ferai à mon Dieu? Tu reçois un enfant, un bébé qui vient dans la famille. La première réaction, ça doit être mais qu'est-ce qu'il sera pour mon Dieu? C'est ça, bien-aimé. Une belle voiture, mais qu'est-ce qu'elle sera pour mon Dieu? Tu commences à faire déjà des projets avec cette belle voiture pour ton Dieu. C'est ça, avoir faim du Seigneur. Celui qui a rencontré le Seigneur, bien-aimé, devient fou aux yeux des humains. Il devient fou aux yeux des humains. Les humains sont accrochés aux choses de la terre et ils ont peur à tout moment. Alors que celui qui est en Christ, il n'a plus peur parce que son Père possède tout. Son Seigneur possède tout. Il ne pense qu'à lui, bien-aimé. Soyons rassasiés. Nous ne chercherons pas le nombre. Nous ne chercherons pas à satisfaire les humains, mais nous chercherons à satisfaire Dieu. Quand on est rassasié, on est bien. On n'a pas besoin des applaudissements, bien-aimés. On n'a pas besoin de reconnaissance, de la reconnaissance des humains. On a besoin de plaire à Dieu parce qu'on a faim de lui. Mon âme a soif du Dieu vivant. Psaume 42. Psaume 63. Comme une terre aride desséchée, mon âme a soif de Dieu. C'est ça, bien-aimés. On vit pour lui. Paul a dit, je suis crucifié. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il a mangé ce qu'il fallait manger. J'aime beaucoup l'histoire de la perle. Le monsieur qui a trouvé la bonne perle, il est parti vendre tout ce qu'il possédait pour acheter la perle. Parce qu'il a compris que c'était la perle qui était son objectif de toute la vie. Il l'a trouvé, puisqu'il l'a trouvé, le reste ne sert plus à rien. Quand quelqu'un a trouvé Jésus, il a trouvé ce que l'homme devait trouver. Et ça, c'est fini. Il a trouvé, bien-aimé. Alors, pourquoi nous sommes dans la perturbation aujourd'hui? Parce que beaucoup ne sont pas rassasiés de Jésus-Christ. Il leur faut encore autre chose pour être bien, pour être heureux. Ce n'est pas normal. Quand on est rassasié de Jésus, on est bien, on est heureux. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas chercher autre chose, mais on ne cherche pas autre chose pour être heureux. On cherche autre chose parce que ça fait partie de la volonté de Dieu. Ça fait partie de la marche terrestre de l'humain. Un point, c'est tout. Bref, ça fait partie de la volonté de Dieu. Mais on ne cherche pas ça comme s'il nous manquait quelque chose pour être heureux. Nous sommes heureux. nous sommes dans la joie. Comme Paul dit, j'ai tout reçu, je suis dans l'abondance. Je suis dans la joie. Et quelqu'un aussi, après avoir demandé comment être rassasié, j'ai déjà répondu, c'est dire au Seigneur, révèle-toi à moi. C'est tout, bien-aimé. Révèle-toi à moi. Quand je vais lire ta parole, que je te connaisse et que je te rencontre. Que je reçoive cette vérité qui libère. Seigneur, délie-moi de toute forme de conception qui m'a empêché d'être rassasié par toi. Et Dieu exauce la prière de celui qui le cherche. Une autre question peut être posée. Mais pourquoi alors parfois on est tenté fortement? Pourquoi parfois on a fortement envie de certaines choses? Parce que nous avons un corps physique qui n'a pas été régénéré. Il peut y avoir des tentations. On a encore une âme qui n'a pas été régénérée. C'est notre esprit qui a été régénéré. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? C'est que pendant que nous subissons ces tentations, nous subissons la force de la chair. Nous devons nous souvenir que la chair ne sert de rien. Et que seule l'eau vive qui vient du ciel donne la vie. Après nous être souvenus de cela, nous devons prier, Seigneur, je veux me contenter de toi. Aide-moi non seulement à être rassasié et à me contenter de toi. Ça fait au début, les chrétiens qui sont emprisonnés, qui sont persécutés, ils prient, Seigneur, qu'on nous libère, que je gagne le procès. Seigneur, que je sorte de prison. 2 ans, 3 ans après, il commence à prier, Seigneur, je prie que toute ta prison soit sauvée, que tu m'utilises pour toucher le directeur de la prison. Je prie que tu m'utilises pour que la cellule numéro telle te connaissent. Ils ont oublié qu'ils cherchaient à sortir de prison. Parce qu'au début, la pression de la chair est là. Ça sent mauvais, la prison. On mange mal. La chair veut bien manger, veut sentir de bonnes odeurs. On crie, Seigneur, que le procès, il est écrit, Seigneur, tu nous défendras toi-même le jour du procès, que je gagne, que je sorte libre de prison. Il est écrit, là où il y a le Seigneur, il y a la liberté. On commence à énoncer des versets pour sortir de prison. Avec le temps, tu te rends compte que non, le meilleur plat, le meilleur endroit, c'est là où se trouve Jésus. Maintenant, il se fait que pour toi, il est venu en prison. T'accompagner, dormir à tes côtés. Et quand tu t'en rends compte, tu dis, Seigneur, est-ce qu'on peut changer de programme? J'oublie de prier pour sortir. Maintenant, on va faire nos projets, toi et moi, ici en prison. Matthieu 17, ils sont montés avec Pierre, Jacques et Jean. Et plutôt, le Seigneur est monté avec Pierre, Jacques et Jean. Ils sont arrivés là, il y a eu transfiguration du Seigneur. Jean, Pierre et Jacques ont vu Moïse et Élie à côté du Seigneur, transfigurés. Pierre a dit, Seigneur, est-ce qu'on peut construire les tentes et rester ici? Après, ça s'est arrêté. Pierre a trouvé ce que tout homme cherchait. La puissance éternelle, la vie éternelle, la gloire éternelle. Elle était là en face de lui. Et Pierre en parle. Hein, c'est quand vous lisez l'épître de Pierre, il dit, nous avons vu sa gloire le jour-là, ce jour-là à la montagne. Ils ont vu, ils étaient comme au paradis, mais étant homme physique. Vous savez, il y a des gens qui vont au paradis par les rêves ou en mourant. Mais Pierre, Jean et Jacques, ils étaient vivants, physiquement, éveillés, et ils se sont retrouvés donc comme au paradis. Il a dit, mais Seigneur, est-ce qu'on ne peut pas faire les tentes ici? Alors, vous vous imaginez. Le Seigneur ne va pas venir forcément de cette manière, mais il vient quand même. Vous vous imaginez dans ta prison. Tu es là, tu vois le Seigneur. Il te dit que la paix soit avec toi. Bien-aimé, ces gens-là disent, bon, c'est fini, je ne sors plus. Je reste. J'ai trouvé celui que tout homme cherche. Vous savez, Jésus, un jour, il a prié, il a dit, Seigneur, je te remercie de ce que tu révèles aux petits, ce que les grands de la terre sont en train de chercher. Moi, inconsciemment, tout homme cherche la puissance éternelle. C'est-à-dire, les rois, les présidents que nous voyons, ils sont en train de chercher un moyen pour rester au pouvoir à jamais. Mais ce moyen-là, c'est qui? Ce pouvoir-là qu'il cherche, c'est qui? C'est le pouvoir que Dieu a déjà donné à son fils. Maintenant, le chrétien a trouvé le monsieur. Il a trouvé, c'est lui. En ce moment-là, les idées changent. Bien-aimé, comme je vous ai dit, au Maroc, j'étais dans la galère. On était dans la galère, la vraie souffrance. Une fois, on a fait un mois, j'ai fait un mois avec un ami pendant les vacances. On mangeait une fois par jour. Vous savez, les bilboules, là, une sorte de quaker. Je ne sais pas ce que les flocons d'avoine. On mangeait ça une fois par jour avec le lait. Je crois avec un pain comme ça, une fois par jour. Les gens sont revenus de vacances, ils nous ont trouvés maigres, bien-aimés. Mais j'ai dit au Seigneur, je ne vais pas sortir du Maroc tant que tu n'as pas trouvé la relève pour s'occuper de ton église. Voilà. Beaucoup de chrétiens finissaient les études, ils cherchaient à quitter le Maroc parce que c'était la souffrance. Prendre visa de la France, visa des États-Unis. Moi, j'ai dit, Seigneur, il n'y a pas de relève. Si je pars maintenant, qui va s'occuper de ton église? Je vais rester jusqu'à ce que tu trouves la relève. Bien-aimé, quand on a trouvé le Seigneur, on n'a plus faim d'autre chose. On veut seulement de lui faire ce qui est important pour lui. Moi, je ne comprends pas quand je vois des gens se battre pour vouloir prêcher. Je dis, mais c'est pas... Quand quelqu'un trouvait le Seigneur, il n'a faim que de Jésus. Les histoires de prêcher devant tout ça, c'est... Non, c'est rien du tout pour lui. Il est rassasié. Comme j'avais mené une mauvaise vie au Maroc un temps, bien-aimé, même quand je me suis converti, j'avais décidé de ne jamais prêcher. Parce que j'avais sali le nom de Dieu. J'ai dit, sur ce pays, je ne veux pas prêcher. Tant que je ne suis pas sorti, ici, je ne prêcherai pas. Bien-aimé, ça ne m'a pas empêché les prédications que je recevais de donner aux autres de prêcher. Parce que pour moi, ce n'était pas le fait de passer devant qui était important, c'était le fait de recevoir de Dieu qui était important. C'était quand on reçoit de Dieu, comme Marie recevait de Jésus-Christ, elle était la femme la plus heureuse. Elle cherchait pas, elle n'a pas dit, je vais commencer à propager. Non! Déjà, quand tu as reçu Jésus, ça y est, tout est fini. Bien-aimés, nous devons changer. Nous devons revenir au premier amour, comme Dieu dit à l'église d'Éphèse. Donc je reviens à la deuxième question. Quand on est assailli par les besoins de la terre, nous devons nous souvenir que ce sont des besoins qui ne satisfont personne. Ils peuvent te mettre la pression et quand tu vas les consommer, tu reçois encore une autre pression pour autre chose encore. Autant dire au Seigneur, Seigneur, renouvelle ta vie en moi. Renouvelle ton esprit en moi. Vous savez, Paul a dit à Timothée, ranime la flamme que tu as reçue au début. Ça se ranime. C'est une flamme avec le temps qui baisse à cause des événements de la terre. On est distrait, on est négligent. Après, la flamme peut baisser. Alors, il y a possibilité de ranimer encore cette flamme. Ranime la flamme que tu as reçue au début. Et Seigneur, ranime la flamme. Je lutte contre tel péché. Je lutte contre tel autre péché. n'y a pas de solution. Mais la solution, c'est que Dieu ranime la flamme. Quand il va ranimer la flamme du rassasiement, tu es rassasié, tu n'as plus envie d'autre chose que de lui. Amen. Nous devons être rassasiés du Seigneur. Nous serons à l'abri de beaucoup de problèmes. Parce qu'on sera rempli. Pourquoi quelqu'un comme David a-t-il avoué son péché à Nathan? Même si Nathan avait dit que cette personne mérite la mort. Lisez les autres rois. Le texte concernant les autres rois. Sur 100%, 85% ont désobéi à Dieu. Mais pourquoi David, lui, étant tombé dans son péché, il a préféré s'humilier. La réponse se trouve dans Psaume 51. Lisons le Psaume 51. Nous allons voir quelqu'un qui a mangé le Seigneur, qui a mangé Dieu et qui avait vraiment faim de Dieu. Psaume 51. David est en train de se repentir de son péché. Il dit: ô Dieu, verset 3, fais-moi grâce selon ta bienveillance, selon ta grande compassion, efface mes crimes. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes crimes et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait le mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans la faute et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu prends plaisir à la vérité dans le fond du cœur. Amen. On dit la vérité, on dit: Seigneur, je suis perdu, aide-moi. Mais tu prends plaisir à la vérité dans le fond du cœur. Au plus secret de moi-même, fais-moi connaître la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi la félicité. Chez vous, c'est annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées seront dans l'allégresse. Détourne ta face de mes péchés. Efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. C'est ce dont on parle. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Crée en moi un cœur pur. David n'a pas dit: bon, maintenant je vais combattre tel péché, combattre tel péché, combattre tel péché. Non, il savait que la vie de Dieu en lui lui enlevait même le goût de ces péchés-là. Alors c'est pourquoi il a dit: crée en moi un cœur pur, ton cœur à toi, et renouvelle en moi un esprit disposé. Bien-aimés, ne nous satisfaisons pas d'une vie chrétienne médiocre, ça nous amènera toujours à la chute et à la mort. Prions: Seigneur, crée en moi un cœur pur, un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Voilà la prière de David. Ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut. Ouais, c'est ce dont on parle là, le rassasiement là. C'est ça, ça. Dans ce rassasiement là, quand on est rassasié du Seigneur, il y a ce qu'on vient de lire là. Il y a la joie du salut. Il y a l'action de l'esprit en nous. Il y a la soif des choses de Dieu en nous. Il y a la face de Dieu qui est près de nous, qui nous regarde. Et quelqu'un qui a goûté à ces choses va se souvenir au moment où les désirs de la terre deviennent forts. Il va se souvenir que les choses du ciel sont supérieures. Et il va dire: Seigneur, crée en moi un cœur pur. Combien de temps on n'a pas passé à se battre contre certains péchés? Et là, le roi nous donne, David nous donne la clé. Il nous dit: mais demandons le renouvellement de l'esprit. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit disposé. C'est ça. Ranime la flamme, Timothée. Ranime la flamme. Nous allons prier, bien-aimés, que Dieu ranime la flamme. que nous ayons soif de lui, que nous aimions les choses du ciel, comme il est écrit dans Colossiens 3, puisque vous êtes morts, affectionnez les choses du ciel, d'en haut, bien-aimés. Nous continuerons à manger sur terre, nous continuerons à nous marier, nous continuerons à acheter des maisons, des voitures, mais Jésus-Christ, c'est la vraie manne, le vrai pain, le pain vivant qui satisfait une fois pour toutes. Et on s'accroche à ce pain-là, comme David était accroché à la présence de Dieu. Il a dit, Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Je préfère même ne plus être roi, mais garder ton esprit. Car ton esprit, c'est mieux qu'être roi. Comme je disais à une sœur, je préfère porter les cartons à l'éclair et garder Jésus dans mon cœur. Je préfère être domestique et garder Jésus. Parce que Jésus, c'est le roi des rois. Et quiconque a le roi en lui, il est lui-même aussi prince, roi, partenaire du roi. C'est ça la vérité, que personne ne nous trompe. Seigneur, nous venons prier que tu nous aides, Seigneur, en ranimant la flamme qui était venue en nous le jour de la conversion. L'amour pour toi, un amour infini qui était venu le jour de notre conversion, Seigneur. On n'avait plus goût à autre chose à cette époque-là. Et avec le temps, Seigneur, nous avons perdu la flamme. Et nous commençons à être déstabilisés par les choses de la terre, la jalousie, les mauvais regards, les soucis de la vie, Seigneur. Et il n'y a même plus beaucoup de missionnaires à notre époque. Il y a peu de gens, Seigneur, qui lâchent tout pour te suivre. Parce que la philosophie du matérialisme a pris le dessus. Seigneur, nous refusons, car nous croyons que tu es tout puissant. Que cette forteresse-là soit abattue, la forteresse du matérialisme. Que nous puissions être ranimés. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Comme Timothée a dit, et Paul a dit à Timothée, ranime la flamme. Oh Seigneur. Garde le dépôt. Paul a dit à Timothée, garde le dépôt. Ce que tu avais reçu là, garde ça. Et il est écrit que nous devons garder nos cœurs plus que toute autre chose. Oh Seigneur. Ranime, Seigneur, la foi en nous. Au nom de Jésus-Christ, que nous puissions plus avoir peur des événements de la terre, que nous ayons foi que tout est possible à celui qui croit, que nous n'ayons pas peur de ce que nous entendons à gauche, à droite, crise économique, que nous soyons certains, Seigneur, que l'Éternel est notre berger, nous manquons de rien, que nos regards soient tournés vers toi, Seigneur. Alléluia. Seigneur.